Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur RNG Radio N Gaming, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de mon ami et collègue Ulysse Combasson, como estas?
Ça va très bien, muy bien, Swill, et toi?
Ça va super, aujourd'hui, un sujet important. Faut le dire, c'est quand même, je veux dire, la semaine dernière, on a fêté les 24 ans d'Xbox, ça fait un bail qu'ils sont là maintenant. Et Microsoft slash Xbox, je pense que voilà, quand je veux dire Microsoft, faut penser Xbox, et quand je dis Xbox, faut penser Microsoft. Mais il fallait qu'on en parle, en fait. Ça fait peut-être depuis le début de RNG, en fait, on s'est toujours dit, faut qu'on fasse un épisode où on parle d'Xbox et de Microsoft, parce que c'est un cas vraiment particulier et hyper important. Mais voilà, ça va être un épisode d'une heure, un qui va ressembler un peu à l'épisode qu'on a fait sur PlayStation.
Ouais, sur la PS1, PS2, PS3. En gros, on va avoir une partie un peu historique dans notre première demi-heure. Et ensuite, un gros débat sur qu'est-ce qu'Xbox aujourd'hui, qu'est-ce que représente la marque et c'est quoi l'avenir. Je crois qu'on s'est à peu près dit ça. On veut un petit débat de c'est quoi, selon nous, l'avenir d'Xbox, vu que c'est un peu la question aussi que tout le monde se pose, hein, dans les médias aussi, j'y vais, et dans l'actualité, et dans les joueurs. Enfin, même les joueurs Xbox se posent un peu la question. Donc, on va essayer de poser nos réflexions là-dessus.
Ok, parfaitement. À toi l'honneur.
Ouais.
Allez, vas-y. Pourquoi Microsoft est venu? Voilà, fin 4. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vas-y, raconte-moi.
Pourquoi Xbox existe? En vrai, on peut se poser la question, hein, parce que historiquement, on a eu, en effet, Sony qui est venu du coup après Nintendo, Sega et la Dreamcast, tout ça. Et Xbox est venu un peu en dernier. Genre, maintenant, on est à une époque où on se dirait la guerre des consoles pendant très longtemps, c'était genre Nintendo, Sony, PlayStation du coup, et Microsoft Xbox. Mais ils sont pas venus comme ça. Ils ont pas popé comme ça du jour au lendemain dans le paysage. D'où ils viennent? Alors en fait, pour commencer, moi je compare de la première Xbox, un peu comme on l'a fait avec la PlayStation et la PS1 tout simplement. L'émergence de la première Xbox, c'est un défi, une mentalité. Je me suis noté qu'en fait, voilà, le JV, c'est du divertissement. Si on aime tous le jeu vidéo, tous ceux qui écoutent RNG ou nous deux sous les mois, c'est parce que, en effet, on trouve que c'est une forme d'art, mais aussi parce que, ouais, ça nous amuse de jouer à des jeux vidéo, sinon on ferait pas ça. Mais c'est pas Microsoft. On pense pas à Microsoft quand on pense divertissement. On pense de base genre à Office et Windows. Et du coup, il faut avoir conscience que cette décision, la décision de créer Xbox, elle vient pas du haut de la hiérarchie de chez Microsoft. Elle vient vraiment d'équipes et de devs qui étaient déjà au sein de l'infrastructure sans vraiment avoir d'influence. Et c'était la Team Xbox, comme on l'appelait. Et du coup, pour le contexte, Microsoft, c'est Windows. C'est fondé par Bill Gates et Paul Allen dans les années 80. Et en fait, Windows, de base, c'est une interface graphique pour le système d'exploitation en ligne de commande MS-DOS. C'est un peu technique, mais en gros, à la base, ils ont eu un accord initial avec IBM qui a fait qu'ils ont dû fournir au PC IBM leur interface. Et ça a assuré en fait leur domination précoce sur le marché des ordinateurs personnels, donc les PC. Et à partir de là, le succès a augmenté parce que Windows a simplifié l'utilisation des PC en remplaçant la frappe de commande par des fenêtres, des icônes et la souris. Ça a eu un succès avec Windows 3 en 90. Et en fait, celui qui a vraiment marché et cartonné quand on a fait nos recherches, on a vu, c'était Windows 95 qui a introduit une interface conviviale, un menu de démarrer et, entre guillemets, le plug and play.
Et les logiciels qui venaient avec,
voilà,
c'est ça, Excel,
voilà,
tout ça.
Exactement, tout ce qui était traitement de texte. Et apparemment, c'était vraiment un raz-de-marée. Faut savoir, là c'est un chiffre que j'avais revu, en 1999, 90% des ordinateurs dans le monde étaient équipés de Windows en fait. Du coup c'était le système d'exploitation standard de tous les PC. C'est un peu comme quand on parlait de Nvidia ou autre, c'est juste ils dominent le marché. C'est, vous avez un ordinateur, vous avez Windows dessus. Et en fait dans ce contexte là, faut voir que du coup, il y avait Sony qui dans les années 90 crée la PlayStation 1. Donc comme on l'a dit, eux ils fabriquaient des Walkman, des lecteurs CD, plein de choses et tout. Ils viennent dans le jeu vidéo en se disant ok, on peut faire quelque chose avec Ken Kutaragi. Et une des déclarations qui est faite avec la PS1 qui est un raz-de-marée, c'est que Sony envahit le salon. C'est genre, ah, Microsoft est présent dans le bureau, vraiment le côté un peu travail, office, très sérieux, très nerd, et PlayStation a le monopole du salon et du divertissement. Pour les consoles, la PS1, c'est genre 63% des parts de marché aux États-Unis, la Nintendo 64, c'est que 33%, et la Dreamcast, c'est 4%. Donc vraiment, il faut se dire que là, Sony, ils viennent sur le marché, et d'un coup, Nintendo, qui était quand même un leader incontesté jusque-là, ils se font éclater. Donc ce qui se passe, c'est que ouais, donc Sony est totalement dominant sur le marché, et donc dans leur déclaration, ils disent aussi que leur console, elle est plus puissante qu'un PC. Donc on voit vite fait le truc venir, ils envahissent le salon, la PS1 est plus puissante qu'un PC, il y a des mecs chez Microsoft qui se disent « Ah mais ils pourraient, entre guillemets, genre... »
Faire un partenariat avec une grosse entreprise, IBM, tu vois.
Voilà, IBM ou autre, et en fait, ils pourraient genre, faire venir des PC un peu déguisés, ou une console qui fait un peu tout. Enfin, il y a un peu ces trucs-là de, c'est une porte d'entrée.
Vers une monopolisation du marché, en fait.
Oui, pour faire une sorte de coup d'État, entre gros guillemets. Donc, il y a une sorte de petite crise comme ça en interne chez certains développeurs de chez Microsoft qui se disent ouais, mais non, tu vois, on n'a pas envie de ça. Et de là naît le projet Xbox. La Xbox Team, j'ai noté, c'est 4 mecs à la base. C'est Otto Berx, Simus Chimus Blackley, Ted Hayes et Kevin Bacchus. Retenez pas les noms.
C'est pas très important.
Déjà, il y en a deux qui sont partis en cours de développement. Surtout, quand on va vraiment en parler, et c'est un peu un des problèmes, quand on parle de PlayStation, il y a toujours un ou deux noms qui reviennent. Des Ken Kutaragi,
Shuya Yoshida,
des... Voilà. Toujours, chez Nintendo, ça va être des Reggie Fils-Aimé aux US. Enfin,
Miyamoto.
Toujours... Ouais, exactement. Ouais. Aux States, avec...
Il n'y a pas de John Microsoft.
Exactement. Il n'y a pas vraiment un mec qui est resté. C'est qu'en fait, ça reste une entreprise dans le sens de... Ça bouge beaucoup en fait. Les choix de carrière, ils vont et viennent. Et du coup, il n'y a jamais eu vraiment un gros cerveau qui a chapeauté tout ça. Mais à cette époque-là, donc, il y a ces quatre mecs. Il y a Bill Gates qui est encore aux commandes de Microsoft. Et du coup, la vision de l'équipe DirectX, que c'était ça à la base, c'est des mecs qui travaillaient donc sur DirectX. Et donc, DirectX, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui aidait les développeurs à créer des jeux pour Windows. Ça standardisait le process. Ils se sont dit, l'avenir, c'est le JV. Et si, en plus d'avoir un standard au niveau software, donc sur PC, voilà, les jeux vidéo sont bien optimisés, on avait un seul hardware tournant avec DirectX, du coup. Donc, une architecture qui voulait simplifier le portage des jeux PC et console, ce qui serait en gros un PC déguisé, et donc beaucoup plus accessible que les consoles Nintendo et Sony, qui ne partageaient en rien l'infrastructure d'un PC. Donc, c'était ça un peu le projet à la base. Et en fait, donc, cette équipe DirectX, elle était en concurrence donc, dans les années fin 90 avec une autre équipe qui était là, celle de Windows CE. En tout cas, voilà, c'était une autre team qui avait plus de poids, d'expérience. Ils avaient, je crois que la Dreamcast apparemment tournait avec Windows CE. Il y avait une version un peu de l'OS où elle était compatible. La 3DO, qui était une console que tout le monde a oubliée, c'était
avec Panasonic, je crois.
Voilà, c'est ça. Ils avaient aidé à la développer. Et du coup, ils sont arrivés apparemment dans le bureau de Bill Gates en mode « Ouais, du coup, voilà, on voudrait faire une console, c'est important, blabla et tout. » Il y a eu plein d'éléments avant ça, mais on va skip. Et les deux équipes ont été un peu mises en concurrence. Et bon, vous devinez bien qui a gagné entre la team Windows CE, Microsoft CE et la team DirectX, du coup. Et en fait, ce qui a aussi beaucoup joué, je trouve ça assez intéressant et ça va être bien marqué, c'est qu'il y a beaucoup des éléments là que je cite. C'est des trucs, on a regardé un documentaire avec celui qui s'appelle Power On, que je pense qu'on vous recommande, même s'il y a beaucoup de pep talk en mode c'est Microsoft qui se tape un peu sur le dos parfois. Il y a un bon recul sur le parcours en fait qu'a eu Microsoft avec la Xbox. Et donc la team DirectX, pour vraiment vendre le projet, ils avaient fait en quelques semaines un prototype qui, je cite, tenait avec des bouts de chewing-gum et de scotch, qui s'allumait en quelques secondes face aux quelques minutes qu'ils prenaient à l'époque pour mettre un PC. Ouais. Et le premier jeu qu'ils ont montré face à Bill Gates, du coup, c'est Tomb Raider. C'est un jeu PS1 en mode on met la disquette, il y avait un truc d'émulation je crois pour l'OS et ça marchait. Et il était tellement genre sur le cul, déjà il leur a demandé apparemment de rallumer la console plusieurs fois en mode fais-le encore, do it again, etc. Et en fait, ils sont dit, ok, bah c'est quoi, vous avez gagné, vous avez ce prototype-là, c'est à vous de faire la première Xbox. Donc ils ont eu 2 ans pour faire le hardware. Et si je vous explique un peu tout ça, c'est que la première Xbox, elle vient vraiment d'une sorte de niaque. Il y a vraiment un truc où quand on voit ces mecs-là en parler, il y a une vraie vision de joueur. C'est pas des mecs corpo, entre gros guillemets, ils travaillent chez Microsoft, qui avait déjà très mauvaise presse à l'époque. Mais quand tu les vois parler de la Xbox, de ce qu'ils veulent faire avec, en termes de puissance graphique, de manettes, les premiers concepts où genre le design c'est un X argenté chromé qu'ils ont poli pendant 2 semaines pour la
première. C'est des gamers,
ils veulent un truc cool, vert, qui explose, blabla et tout. Et donc le hardware, on sait que ça a toujours été fait à perte, les revenus se font tout le temps sur les jeux, mais comme Microsoft a jamais conçu de hardware avant, c'est-à-dire qu'eux ils ont toujours fait du software, on l'a dit, la suite Office, Windows et tout, bah là, Il y a deux éléments que j'ai envie de citer. Le premier, c'est qu'ils sont allés voir Nintendo. Ça, c'est peut-être un truc que vous savez, mais ils se sont dit « Ok, on sait pas faire de console, on va peut-être racheter Nintendo. » Donc, ils sont allés à Kyoto pour leur demander en mode « Eh, ça vous dit pas, vous nous aidez à faire une Xbox ?»
C'est le moins arrogant.
Et apparemment, je crois que ouais, la direction leur avait rayonné quand j'avais lu des documents en mode « Ils avaient quoi, vous voulez nous racheter ?»« As you get the fuck out !» et tout. Donc, ils vont faire la console eux-mêmes. Donc là, Ted et Nat, partent. Deux noms que vous avez déjà oubliés. L'équipe recrute, notamment Rickton Thompson et J. Allard, un mec qui parie sur Internet. Il se dit, la Xbox, faut qu'elle ait un câble Ethernet, c'est l'avenir, etc. En fait, pour les 2-3 éléments techniques intéressants avec la Xbox, genre l'OS, ça tourne avec Windows, par exemple. Mais il fallait une version plus légère pour la console, donc ils sont rentrés, entre guillemets, par effraction pour voler le fichier sur la disquette et tout, le code, qui faisait à la base 4 mégaoctets, et ils l'ont réduit à 200 kilooctets. Il faut se dire que c'est vraiment minuscule. Genre 200 KO maintenant, c'est même pas une musique.
C'est même pas une image. Genre
c'est même pas une image, en fait. Et du coup, tout l'OS de la première Xbox tenait sur ça. Et c'est pour vous dire, du coup, voilà, donc on est pur, on retire Windows, sachant que Bill Gates, il tenait à ce que ce soit une console qui fasse partie de l'écosystème Windows.
Et qui mette en avant Windows,
la suite Office. Apparemment, les mecs qui développaient Office venaient dans le bureau en disant « Ah, du coup, on va pouvoir faire du traitement de texte dans le salon, c'est trop cool !» Et la team Xbox était en mode « Gros, casse-toi, genre, je veux pas travailler dans mon salon, ça a aucun sens. » Et du coup, donc, eux, ils se sont vraiment maintenus à se dire « Faut que Xbox soit un produit à part entière de Microsoft. » Il y a eu un débat sur est-ce qu'on faut l'appeler la Microsoft Xbox ou lui donner même un autre nom. Il y a eu, je crois, une sorte de brainstorming avec plein de noms un peu débiles. Ils se sont dit « Non, non, la Xbox, c'est une unité à part entière. Il faut pas qu'elle soit rattachée à Microsoft, car, encore une fois, très mauvaise presse. C'est vu comme des nerds qui portent des lunettes et des gros baguilles. C'est pas des mecs cool. » Du coup, le design rentre là-dedans où ils disent « Faut que ce soit nucléaire, badass. » Trouver un truc cool.
Il y a un laser.
Sony. Ouais, c'est ça. Parce que Sony est cool à ce moment-là. Sony, c'est le cool. C'est le méga cool. On l'a déjà. Sui l'a beaucoup évoqué, mais Sony, à l'époque, il n'y a rien de plus stylé, en fait. Dans la PS1, c'est un produit qui est genre hyper design aussi. Donc, Xbox et Microsoft se disent ok, nous, faut qu'on soit sur le côté. C'est cool, mais genre, c'est puissant. C'est vraiment genre le côté. Américain de. C'est une grosse caisse qui consomme.
Il y a un réacteur à l'intérieur.
Exactement. Et donc, pour être cool. Au-delà du design, qu'est-ce qui se passe? Le développement avance, tout est en express parce que faut se dépêcher pour atteindre la date de sortie qui est donc en 2001. À la CES, qui est donc un événement à Las Vegas, un peu comme l'E3 à l'époque, mais c'est un truc vraiment. Ouais, c'est le Consumer Electric Show apparemment.
C'est ça.
Consumer électronique, pardon. Et bah, qui on voit sur scène pour présenter la Xbox? Il y a Bill Gates, mais il y a aussi The Rock. Parce que The Rock, il est cool en fait. Voilà. Et donc, la présentation, elle est faite en 2001. Tout le monde est en mode « Oh mon Dieu, on peut avoir une star et tout !»
Ça marche bien, genre, même si tu sens que c'est surfait, tout ça et tout, il y a un côté de, je sais pas, de la chimie, elle est bonne et... Ouais, c'est pas kitsch. Genre, ça va, c'est rigolo, tu vois.
Exactement. Et donc, ils arrivent, ils parlent, The Rock, il est là en mode « La Xbox, elle est comme The Rock, elle est puissante, elle est cool, elle est là en mode « Bam !» Et tout le monde est en mode « Ok, c'est rigolo, genre, on les voit vraiment... ces deux mecs qui ont rien à voir ensemble, genre le milliardaire Bill Gates et The Rock, et on se dit « Ok, c'est chouette sur scène. » Et donc, fast forward, on avance un petit peu. La console, elle sort en 2001. Elle sera surnommée le PC sous le téléviseur en raison de ses composants. Processeur Intel, carte graphique Nvidia, il y a un disque dur intégré. Elle est compatible Ethernet à une époque où il n'y avait que 5% de la population qui était équipée en 99, 2020. Donc, c'est vraiment un pari qui a été fait aussi sur l'online. Et que dire sur la première Xbox à part que moi... C'est la première console que j'ai eue. C'est-à-dire que les deux premières consoles que j'ai eues, je l'ai souvent dit sur RNG, je crois, quand on faisait des récaps, c'est la N64 et la première Xbox. La première console que j'ai eue à moi, entre guillemets, je me suis dit « Ah, on me l'a acheté pour moi », c'est la 360. La première Xbox, c'est la première console que j'ai faite. Le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Halo. Et du coup, je trouve que c'est une console incroyable. Genre, il y a un truc où moi, j'ai joué en 2003-2004, c'est mes premiers souvenirs. Mais en 2001, elle sort et c'est un beau succès, en fait. Alors le service de jeu en ligne, le Xbox Live, ça a super bien marché. Ça a cartonné, en fait. Ça a standardisé le jeu multijoueur sur console avec abonnement et liste d'amis. Avant ça, il y a la Dreamcast qui le faisait, mais c'était du modem, donc c'était genre le coup. Genre qui marchait pas très bien, tout ça. Là, la connexion, elle est bonne. Les jeux ont l'air plutôt jolis. Il y a des PGR qui sortent, il y a des Ninja Gaiden. T'as plein de propositions très différentes, parce que du coup, Microsoft a déjà à l'époque acheté beaucoup de studios. Ils ont fait un peu des appels à projets en disant « Ouais, les gars, si vous avez des jeux... »
Ouais, Bungie, là, ça vous dirait un petit FPS
sur Ouais, ça, en mode « Eh, venez, on vous donne des thunes, vous développez le jeu, vous le sortez sur notre console. » Et Bah en effet, Bungie du coup à ce moment-là qui avait juste des concepts en disant ah, on a un petit jeu avec un super soldat.
Ils avaient déjà Marathon et ils avaient déjà un passé
ouais,
sur PC quand même.
Sur PC ouais bien sûr. Mais même Microsoft tu vois sur PC ils avaient Age of Empires mais c'était pas encore considéré vraiment comme des devs de jeux. Enfin,
c'était pas un éditeur quoi.
Exactement. Et en effet bah, le jeu qui sort et qui va tout bouleverser et qui en vrai a porté la Xbox parce que on l'avait dit dans notre top des consoles, la PS2 c'est pas un spoil, elle roule sur la génération quand même. C'est la console la plus vendue de tous les temps. La Xbox elle sort, on aurait pu se dire qu'elle va se faire écraser parce que en soi la Dreamcast elle a disparu, la GameCube elle a été arrêtée d'être produite hyper vite, la Xbox
elle a su se maintenir,
elle a réussi à se maintenir, en fait, elle est venue de nulle part, personne n'y croyait vraiment, tout le monde était en mode oh là ça va être bizarre, surtout que je crois que les premières présentations étaient assez catastrophiques, genre en 2000, et bah elle arrive, il y a Halo, et Halo bah, c'est un événement, c'est un bouleversement. Genre, je pense que ça fait partie des consoles sellers qu'on aime bien citer avec Swell, où on se dit une console, c'est des exclusivités. Il y a besoin de ça pour que ça fonctionne. Et Halo, ça a été l'exclusivité de chez Xbox qui l'a rendu populaire,
crédible, légitime. Je pense qu'Halo, ça fait partie de ces IP, comme on en parlait avec Nintendo. C'est, ça te forge un panthéon, ça te forge une... On te respecte tout de suite avec un jeu comme Halo, en fait. Genre, c'est le Sonic de Sega. Ils arrivent sur le marché et tout de suite, ils arrivent tout de suite à avoir ce truc-là avec Halo, en fait.
Exactement. Et en gros, voilà, donc, le FPS sur console, c'est Halo, qui vous dit, vous pouvez jouer à des jeux de tir sur console avec la Duke, qui était l'énorme manette pas adaptée au japonais. Et c'est un peu ma conclusion avec la première Xbox, c'est qu'en fait, c'est une console qui est cool, qui vient pas de chez Microsoft, elle vient pas de chez Bill Gates, elle vient pas, enfin, forcément elle vient de chez eux, mais elle a pas trouvé sa genèse dans l'esprit Microsoft, dans l'esprit corporate. C'est vraiment des sortes de rebelles qui sont venus, qui ont dit hey, on a un projet, ils ont toqué à plein de portes, ils n'avaient pas de réputation, ils ont fait cette console avec le cœur. L'équipe a un peu bougé au fur et à mesure, mais en 2 ans, il faut se dire que vraiment la durée pour concevoir la console, la fabriquer, la produire, avoir les jeux et tout, il y a un côté comme ça, genre speedrun qui est hyper impressionnant, qui est possible qu'avec énormément d'argent bien évidemment, c'est Microsoft derrière qui a des milliards pour appuyer le bail, mais moi ça fait que c'est une console qui est très présente dans mon cœur et qui, je vais refaire mon classement des consoles, était top 10, parce que je m'étais un peu emmêlé les pinceaux, du coup elle était 11e, c'était un peu bizarre, mais en vrai, ça reste une console, pour moi, une des consoles les plus importantes, parce que bah, sans elle, Microsoft n'existerait pas en fait. Mais, là je vais laisser la parole à Swill, la console qui l'a suivie, je pense que c'est la console qui a un peu appuyé, on va dire, ou assis Microsoft comme une vraie concurrence.
Ouais, une vraie concurrence, surtout c'est, on va faire tout simple, hein, c'est l'apogée de Microsoft en termes d'image, mais c'est aussi un cas... La période 360, c'est un cas extrêmement étrange, en fait. Et c'est une génération, en fait, quand moi, j'ai retravaillé dessus et que j'ai fait un peu une sorte de map en mode les bonnes choses qui sont passées, les mauvaises choses qui sont passées. Je suis en mode, mais c'était quoi ce moment dans l'histoire du jeu vidéo? C'est trop bizarre. Parce que, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, on remet un peu le contexte. Tu dis, voilà, parler de la Xbox, c'était en concurrence avec la PS2, mais bon, pas vraiment de concurrence. La PS2 vraiment écrase tout. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on apprend que Nintendo, avec la Wii, vont faire vraiment un jeu à part, du coup, il reste que Microsoft et Sony sur le marché. Sega ne fait plus de console. Et ce qui se passe à ce moment-là, Microsoft, ils sont pas très très bêtes, ils se disent il faut qu'on coupe l'herbe sous le pied de Sony, on est à peu près en 2005, et du coup, il fallait sortir la prochaine Xbox avant la PlayStation 3, en fait. Il fallait vraiment tout de suite taper avec cette force de frappe-là, parce qu'à ce moment-là, Xbox a plutôt bonne presse, surtout aux États-Unis. Vraiment, il y a vraiment eu un énorme choc culturel là-bas, et ils ont réussi un petit peu avec la première Xbox à séduire un peu l'Europe, mais pas trop, parce qu'il y a tellement eu le raz-de-marée de PS2, et le prochain, on va dire, challenge pour, du coup, Microsoft, c'est étendre ce succès-là vraiment en Europe et essayer de gagner des parts au Japon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, du coup, on est en 2000, fin 2004, et ils se disent, c'est simple, la Xbox 360 doit sortir en novembre 2005, en fait. C'est la deadline, il faut que ça sorte à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que du coup, en février 2005, ils commencent le design de la carte mère de la console. Il fallait donc en 9 mois, je dis bien 9 mois, designer la carte mère, la produire et avoir suffisamment de stock pour la sortie, pour assouvir voilà, les demandes en Europe, au Japon et surtout aux États-Unis, parce que c'est vraiment là que la demande va être le plus fort. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, dans le documentaire, ça c'est marrant parce qu'ils l'expliquent assez ouvertement, c'est qu'ils disent 9 mois pour faire tout ça, c'est pas possible en fait. Je crois que c'est Tom, j'ai retenu le nom, c'est le responsable du développement d'hardware de chez Xbox qui a été à ce poste-là, genre de 99, donc le mec il l'a depuis le début jusqu'à 2014. Ce mec c'est Tom Homedale, qui est du coup la responsable de l'hardware, et il disait il nous aurait fallu 2 ans. Il nous aurait fallu 2 ans pour designer le bail, le produire, faire assez de stock. Et là, en fait, Microsoft, ils ont juste dit, les gars, vous avez 9 mois. En fait. Vous avez 9 mois, il faut que ça sorte en novembre. Pas le choix, on a déjà commencé la campagne marketing, en fait. Tout le monde pense que ça existe alors que la console n'existe pas. Et du coup, c'est un peu le début, on se dit, retenez parce que ça va être important pour la suite, pour ce qui va se passer. Et du coup, l'année 2005, elle est marrante parce que du coup, genre, en termes de marketing, je pense que c'est le dernier moment où on a eu... je trouve qu'il se passe... Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui va se passer début novembre 2005, t'as Xbox qui fait un énorme show dans le désert de Mojave aux États-Unis. Et oh, du coup, ils vont... T'as un truc, c'est la zone 51. Il y a un énorme hangar au milieu du désert. Ouais. Et t'as des milliers de fans d'Xbox qui viennent des quatre coins des États-Unis, qui viennent genre au milieu d'un désert pour faire genre vraiment une sortie... Aujourd'hui, ça se fait plus, tu vois. C'est pour vous dire, vraiment, en termes de marketing, on est dans un autre monde un peu. Pour la sortie de la 360, et tout de suite, voilà, on parlait déjà de la 360 comme la console ultime. Moi, je me souviens, en termes de marketing, c'était vraiment le côté de une console hyper puissante. Il y aura Halo 3, on vous promet voilà, plein de jeux. Je veux dire, la 360, derrière, ce qui s'est passé surtout en termes d'image, c'est une console. C'est la console Xbox avec le meilleur catalogue. Franchement, ça a été la plus fournie, surtout que... Et ça va plus loin que ça, c'est-à-dire au-delà du meilleur catalogue. Et c'était tellement varié, on en a parlé dans le top, donc je vais aller assez rapidement, c'est une console dont on a beaucoup parlé, mais vis-à-vis du jeu indépendant, il y avait déjà des prémices, un peu, genre, pour avoir une console, voilà, de milieu des années 2000, avec des jeux indépendants dessus, c'est en mode, c'est un truc de fou. On avait quoi d'autre? On avait c'est une console qui a mis sur la table les achievements.
Ouais.
Les achievements, c'est pas rien. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve sur Steam, qu'on retrouve sur PlayStation, c'est quelque chose qui font partie de le gamer tag. Juste toute bête, tu vois, le fait que voilà, maintenant on est sur des consoles qui sont quasiment constamment connectées à Internet, tu vois, tu peux y jouer offline, mais il y a ce que truc de maintenant, les consoles s'est connecté à Internet avec cette génération, et c'est la Xbox voilà, qui met en place voilà, le concept du coup du gamer tag. Plein d'éléments qui aujourd'hui sont un peu la norme, donc elle a ce côté de. Elle met en place des normes en fait, c'est la preuve d'une. C'est signe d'une console qui a une influence et qui est importante et qui fonctionne. Et après, bah, ce qui s'est passé. Novembre 2005, la console sort et c'est un carton, vraiment. Il y a vraiment, ils enchaînent, surtout aux États-Unis. C'est en Europe, commence à gagner du terrain. Je pense que Sony à ce moment-là, bon, ils étaient, on l'a déjà dit, ils étaient dans une période, ils étaient très arrogants, ils pensaient dominer le marché et tout. Et
bah, j'allais dire, ouais, c'est vite fait, enfin, je sais pas bien sûr ce que t'allais dire, mais justement, on notait que ils annoncent là, du coup, la next-gen un an avant la PS3 et ils sont moins chers que la PS3 qui était donc
400. La Xbox, ils l'ont vendu à $400.
La Xbox a été vendue à $400 et la PS3 c'est quoi, c'est
699 dollars. Ouais.
Putain ouais.
Donc c'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est vraiment énorme.
Et en plus, voilà, la 360 était plus facile à programmer.
Ouais, donc, voilà,
tous
c'est
les
ça,
jeux,
vraiment.
Genre multiplateforme, tournaient mieux sur 360.
Donc voilà, donc vous voyez là tous les points, comme on se dit putain, mais en fait elle va tout raser sur le marché là, même là Nintendo, comment ils vont faire en fait, genre c'est n'importe quoi, Microsoft va tout gagner, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez quand je vous disais qu'ils avaient que 9 mois pour designer une carte mère et la mettre sur le marché? Et bah, ce qui va se passer, c'est que un an après, c'est-à-dire donc on est à peu près en 2006, commence à avoir un peu plus de retours, on en parle sur Internet, qu'est-ce qui se passe avec la Xbox 360? Bah, elle cesse de fonctionner. Il y a un message d'erreur qui est envoyé sur
l'anneau au milieu.
L'anneau au milieu, ouais. Voilà, en fait, du coup, vous avez l'anneau vert qui est le bouton sur lequel on appuie pour allumer la console. Et en fait, les trois quarts de l'anneau vont être allumés et on va appeler ça le Red Ring of Death, le cercle rouge de la mort. Et ce qui se passe, c'est que du coup, sur le marché, on commence à voir de plus en plus d'Xbox 360 tout simplement ne plus répondre au bout d'un an. Et ça va être, plus le temps avance, plus de nombreuses 360 commencent, surtout aux États-Unis, ça commence vraiment là-bas, surtout qu'on commence vraiment, on est vraiment en plein milieu de, tu sais, genre des blogs d'Internet, on commence à voir un peu YouTube émerger, tout ça et tout. Et il y a le côté de wesh les gars, ça fait un choc, ça fait vraiment une polémique à l'époque. Aux États-Unis, on parle de vraiment, c'est une chose, c'est une C'est un fait historique qui est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du jeu vidéo, le fait d'avoir une console qui se vende autant et avoir un choc comme celui-ci arrivé seulement après un an, c'est un véritable cataclysme en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, en termes d'image, à ce moment-là, genre, on voit des mecs genre, jeter leur Xbox par terre, foutre le bordel, genre vraiment, c'est Microsoft redevient un peu genre une forme de...
De mouton noir.
Ouais, de mouton, vraiment, on leur jette la pierre, à raison, tu vois, genre en mode, putain, un truc qu'on achète 400 balles au bout d'un an,
tu vois, en plus, ouais, c'est ça, dans le documentaire, des mecs qui ont genre, ils ont une console, ils la renvoient, ils en reçoivent une deuxième, parfois une troisième, et elle marche toujours pas, parfois même genre à l'achat directement, c'est même pas, ils ont pu jouer avec, c'est juste, la console, elle arrive dans ton salon, tu la branches, elle fonctionne pas directement d'office. Et un des chiffres qui est évoqué, c'est qu'apparemment 100% des unités sont concernées.
Exactement. Parce que du coup, vous allez me dire, mais du coup, c'est quoi le problème avec le Red Ring of Deathlore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? Il y a un rat dans la Xbox qui mange les câbles ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Non, en fait, c'est très simple. Pour vous. On va essayer de la parenthèse un peu technique. En fait, c'est tout simple. C'est Tom Homdale qui, du coup, l'explique. Il dit que ce n'est pas un problème qui est situé sur la carte mère. En fait, c'est l'un des composants situés en fait, entre le processeur graphique et la carte mère qui effectue en fait, la connexion entre les deux. Et en fait, ce connecteur-là, on va l'appeler le connecteur, à force en fait d'allumer et d'éteindre la console, du coup, de la faire passer à une forte température, parce que voilà, une console intérieure, ça chauffe, tu vois. Une carte mère, vraiment, ça chauffe de fou. Et du coup, à force de la faire passer à voilà, de basse température à de fortes températures, ça crée comme une sorte de stress chez le connecteur et il brise. Et si votre processeur graphique, il est plus connecté à votre carte mère, c'est simple, la console, elle s'allume pas. Tu vois, c'est pas juste quelques composants par-ci par-là. Non, c'est vraiment genre, si ça, c'est mort, ça sert à rien, c'est mort, il faut tout refaire depuis le début, en fait. Du coup, ce que fait Microsoft à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment le choix, en fait. Il faut répondre à cette problématique en mettant de l'argent sur la table. Et puis, je crois qu'il le raconte assez rigolo dans le documentaire. En fait, ils vont aller voir à ce moment-là Steve Ballmer, qui est, je crois, le
co-CEO. Hein,
ouais, CEO directement. CEO de Microsoft, en mode écoute, on a fait le calcul, on a calculé, on a vendu tant de consoles sur le marché, il faut qu'on se les fasse livrer, qu'on les répare et qu'on les renvoie gratuitement. $1 milliard. Donc déjà, tu vends ta console à perte, mais tu rajoutes à ça une facture $1 milliard pour remplacer les consoles. Parce qu'ils vont le faire totalement gratuitement, faut pas déconner, tu vois, genre c'est les mecs, ils ont payé leur Xbox 360 400 balles, à aucun moment tu vas les faire payer quoi que ce soit, tu vois, il faut que tu fasses dos rond en fait. Et les gars, on parle de Microsoft, un truc comme ça, une problématique comme ça, ça tue n'importe quelle entreprise sur le marché. Sony n'aurait pas survécu à ça, Nintendo n'aurait pas survécu à ça, absolument personne. Mais Microsoft était tel, genre c'est...
C'est un GAFAM.
C'est le gars, ouais, genre c'est entreprise, c'est genre c'est l'entreprise en fait, tu vois, c'est... Genre Steve Ballmer, il a un monocle et un haut chapeau.
Tiens, un milliard, vas-y, tiens, ouais, voilà. Prends de la monnaie.
Littéralement,
la
monnaie. Il a dit, ouais, vas-y, faites-le, me saoulez pas, allez-y, là, faites-le, me saoulez pas. Et genre, c'était la seule chose à faire. Et derrière, bah, ça crée une sorte de d'état des lieux assez étrange, en fait, avec la 360. Je vais te lancer dessus après, Ulysse. Je trouve que ça crée une forme de génération, en fait. Pour moi, la génération se termine et j'ai envie de dire, c'est une légère victoire pour Xbox. Ils commencent vraiment à gagner vraiment en street cred, en street cred dans le marché. Et surtout qu'à côté de ça, il faut toujours remettre en place la concurrence. La PS3, ça n'a pas été une très très bonne génération pour Sony. Donc, ils gagnent un peu de ça Xbox. Mais derrière, il y a genre, le Red Ring of Death, cette problématique-là, il aura fallu attendre 2011. Pour que toutes les Xbox défectueuses soient retirées du marché et réparées, en fait. La console, elle est sortie, on l'a dit, en 2005. Et la Xbox One est sortie en 2013.
Ouais, 2013.
2013, donc c'est un problème qui a survolé toute la génération, en fait. Qui a survolé toute la génération. Et à partir de là, c'est une console qui est extrêmement dure à juger, mais derrière, il y a quand même de très, très bons éléments. La manette de la Xbox 360,
ouais, la manette, c'est peut-être, elle est quasi parfaite.
Ouais, elle est quasi parfaite. On peut la considérer facilement comme l'une des meilleures manettes jamais faites. On a des expériences phares. Je veux dire, c'est une console qui a vu naître Gears, Forza. On a eu des développeurs japonais qui venaient faire des jeux pour la Xbox 360. Pour vous dire, genre, c'est des mecs, genre, des studios japonais qui faisaient des jeux pour une console américaine. Genre, vraiment, c'est une console qui a réussi énormément de choses.
Même les jeux indés, tu sais, avec le Xbox Live Arcade, ouais. Genre du coup le store.
Left 4 Dead 2 sur ta Xbox, tu pouvais jouer à Portal, genre vraiment. Genre...
Mass Effect, c'était une exclu Xbox, ça, Splinter Cell, temporaire, exclu Ubisoft, mais temporaire aussi.
Il y avait le partenariat avec Call of Duty, je me souviens, ils avaient le partenariat où tout ce qui était genre DLC, contenu additionnel, sortait un mois en avance sur Xbox. Genre, purée, il y avait pas mal de trucs, mais après, tu prends un peu les stats à la fin, on fait l'état des lieux.
C'est kiff-kiff,
en fait. Du coup, on est à peu près à 85 millions d'exemplaires vendus. C'est pareil pour la PlayStation 3. Et la Wii, on a vendu à peu près 100 millions. Donc, tu sais, il y a des choses qui sont assez contradictoires. On donne beaucoup de crédit à cette console, à raison, parce qu'elle a fait d'excellentes choses, mais derrière, moi, ça me met dans un état où il y a un énorme what if. Je ne peux pas m'empêcher de voir le verre à moitié vide avec la 360, en fait. Je me dis, purée, ça aurait pu tellement être la console qui vraiment fasse exploser Microsoft.
Tu veux dire sans le Red Ring of Death ?
Je pense que le Red Ring of Death a beaucoup joué dans l'image de la marque, ouais. Et derrière, il y a eu d'autres éléments.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
Savoir qu'en 2007, ça sonne aussi l'arrivée du nouveau président pour Xbox. C'est l'arrivée de Don Matrick qui arrive en 2007, remplace du coup l'ancien président, donc je n'ai pas le prénom, mais ce n'est pas très très grave. Et Don Matrick, pour vous illustrer, va rester là de 2007 jusqu'à 2013. Et qu'est-ce qu'il a apporté, Don Matrick ?
TV.
Et le Kinect, en vrai. On a parlé Kinect.
Il a apporté Kinect.
Ouais. Ah. Le Kinect, j'en parle, je peux vous le présenter rapidement.
Vas-y,
le Kinect,
vas-y.
Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, dans cette génération, on a la Wii qui débarque avec son machin. C'est le motion control, en fait, qui est au centre de l'expérience Wii. Et donc, il faut s'aligner. Genre, il n'y a pas le choix. Microsoft crée une team pour s'occuper de ça. Et PlayStation, je me souviens, ils ont fait le PlayStation Move. Bon, tout le monde l'a oublié, Dieu merci. Microsoft, en fait, tout simplement, décide de retirer la manette. C'était un pari qui était assez fou à l'époque. Et avec voilà vraiment une technologie et un groupe de recherche et développement qui a vraiment fait un travail exceptionnel, ils ont mis au monde la Kinect et c'est un produit qui fonctionne en fait. Genre vraiment c'est une petite révolution en soi, c'est un produit qui a été utilisé même en dehors du jeu vidéo, c'est une excellente caméra et je pense qu'on commence à mettre le doigt sur pas mal de problématiques qui touchent Microsoft en fait. La Kinect, tout simplement, bah ça marche pas chez les gamers en fait. Genre vraiment il y a un côté de, on va prendre en comparaison Nintendo, le motion control c'est mis en place par Nintendo dans une logique de comment cela peut révolutionner le gameplay, comment cet élément là qui va révolutionner un peu le jeu vidéo, comment ce truc là nous fait jouer à des jeux vidéo de manière différente en fait. Et Xbox est dans une logique différente avec la Kinect, c'est vraiment l'aspect jeu vidéo-esque du produit n'est pas spécialement important. C'est un produit qui peut répondre à d'autres choses. On peut faire de l'exercice avec, on peut jouer à 2-3 jeux, on peut essayer de conduire une voiture, mais ça ne va pas prendre chez les joueurs. Ce n'est pas un élément de gameplay.
En fait, c'est un élément d'accessibilité, je pense. Plus que là où la Wii, c'est une façon de jouer. Microsoft, c'est genre, ceux qui ne savent pas comment jouer peuvent maintenant jouer vu qu'ils peuvent juste le faire avec les mains.
Exactement, voilà. Donc, tu auras Dance Central, tu auras ton Kinect Adventures. Je dirais quelques années.
Ouais,
Star Wars Kinect. Et genre, ça va pas prendre. Genre, ça va se vendre. En fait, ça va être un succès. C'est-à-dire, il y aura énormément d'exemplaires vendus, mais ça va pas prendre chez, j'aime pas le terme hardcore gamer, mais dans ceux qui sont là pour jouer à des jeux vidéo, c'est pas un élément game changer en fait. Et du coup, ça va énormément changer, je pense, la mentalité, on va dire, de chez Microsoft. Ce côté où, en fait, qui va être mis en place par Don Matrick. Mais je pense que derrière, on peut reprocher pas mal de choses à Don Matrick. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est une demande, j'ai l'impression, plus de Microsoft, c'est-à-dire vraiment les exécutifs qui veulent étendre le modèle Xbox à quelque chose d'assez multimédia, en fait. Ça va donner tout simplement l'arrivée de la Xbox One, en fait, ces choses-là, en fait. Tous ces éléments-là vont nourrir une sorte de philosophie chez Xbox qui sera mis en place à la prochaine génération. Donc, je veux un peu, toi, ton avis sur la génération 360, si tu me rejoins sur l'aspect what if. on a l'impression que c'est une console qui aurait pu faire plus, en même temps qui en fait déjà beaucoup, qui en fait pas mal, mais avec le recul, il y a un peu un côté un peu amer, j'ai l'impression, qui me laisse frustré.
Oui, d'accord, par rapport à l'image de la marque, je pense que c'est un peu ce truc où c'est le moment où Xbox était un peu au toit du monde. Ce qui est drôle parce qu'en soi, ils sont kiff-kiff avec Sony, mais en même temps, c'est parce qu'on prend les ventes globales. C'est que tu prends aux États-Unis, sur les 27 derniers mois de commercialisation, ils étaient dominants. C'est eux qui vendaient plus de consoles que Sony ou Nintendo aux États-Unis, hein, vraiment en Amérique du Nord. Genre, Microsoft était roi en son royaume. C'est vraiment, ils sont nés aux States, à Redmond, et ils vendaient des Xbox à l'appel, en fait. C'était vraiment le truc où les Américains étaient en mode « Ouais, on a notre marque, on a nos IP, on est les rois du monde. » Enfin, les rois du monde parce que les États-Unis c'est le monde, comme on le sait. Mais en Europe ou au Japon, c'était plus nuancé. Et je pense que c'est ça qui est un peu dommage, c'est que s'il n'y avait pas eu le Red Ring of Death, qui est quand même un énorme... Je vais dire, ah, c'est un petit obstacle. Non, c'est quand même énorme de dire que toutes vos consoles sont défectueuses.
Je vais comme juste voir la concurrence, en fait.
Ouais, quelle marque aurait pu, de base... Enfin, je trouve ça hyper pertinent, tu vois. Quelle marque aurait pu survivre à ça ? Il n'y en a quasiment aucune. Donc, je suis d'accord sur le côté un peu...
Frustrant
de ça. Surtout quand on voit donc la Xbox One. On va passer très brièvement, parce que je pense que là, avec Soul, on veut un peu faire une sorte de bulle Xbox One et Series X. Parce que la Xbox One, pour moi, c'est la console qui symbolise le déclin de Xbox. C'est la console qui marque la rupture avec les joueurs. C'est la console qui vous dit TV, 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 la conférence. Je me rappelle à l'époque, je l'avais regardé en direct sur jeuxvideo.com en 2013. Et pendant une heure et quelques, t'avais Dan Matrick avec d'autres responsables qui venaient pour vous dire avec Kinect, vous pouvez choisir tel programme, vous pouvez commander vos tickets pour Star Trek Into Darkness, vous pouvez aller sur Internet avec Microsoft Edge,
regarder
la NBA en même temps que autre chose. Ouais, il y a une entrée HDMI dans la console et une sortie, comme ça tu peux mettre ton décodeur donc à l'arrière et ta télé elle ressort. Du coup, tu peux contrôler la télé avec la Xbox. Enfin, des trucs où tu fais, ok, elle est au centre du salon, tout le côté Xbox One. Mais les joueurs sont en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde?
Bah ouais, en fait, moi je me souviens des forums à cette époque-là. Vraiment, fallait pas être sur Twitter et... Non, quoique, fallait être sur Twitter à cette époque-là, c'était extrêmement marrant. Franchement, le four que ça a été, où vraiment on est en mode, mais on veut juste voir des jeux. Moi, je me souviens, ils ont juste montré un extrait de FIFA 14, je crois, à l'époque. Il y avait du Madden, peut-être
un jeu de course. Il y avait eu du Rise of Rome,
ouais.
Un Forza 5 un peu.
Ouais, un peu de Forza. Et
Sunset Overdrive.
Ouais. Et après, les jeux restent en mode, les gars, c'est tout, en fait. Et ça a fait mal. Ça fait très, 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 très mal, surtout qu'on était à l'E3 et...
Surtout la communication qui a suivi. C'est-à-dire qu'après, il y a eu donc le bail des DRM. Vous voyez ce que c'est, les Digital Rights Management. On en parle beaucoup avec la préservation des médias, mais du coup, la console, il fallait qu'elle soit obligatoirement connectée à Internet toutes les 24 heures. Si elle pouvait pas faire son checking quotidien, elle se bloquait, en fait, elle se briquait. Elle était en mode, vous pouvez pas jouer au jeu. Et eux, c'était en mode... La réponse qu'avait eu Dan Matrick à l'époque, j'ai même pas besoin de faire mes recherches, je m'en rappelle, il disait, si vous n'avez pas Internet et que vous avez besoin d'une console hors ligne, il y a une console qui marche très bien, qu'on vend aussi, qui s'appelle la Xbox 360. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre un peu aux joueurs en disant, non mais ok, je comprends vos complaintes ou ce que vous êtes... Genre, je vous ai entendu, je vous ai écouté, de façon De Gaulle, j'en sais rien. Il était en mode, hey, les gars, en fait, il y a une console qu'on vend depuis 2005, elle marche. Genre, laissez-nous tranquille, nous on passe à l'avenir, on a besoin d'être connectés. Et du coup, il vous crache un peu à la gueule, ça a été très mal pris. À une époque où il y avait que genre, je crois que le chiffre c'était 30% des joueurs qui étaient vraiment en full des maths. Il y avait le PC, mais les joueurs consoles achetaient énormément de disques encore. On leur dit, vous pouvez pas vraiment prêter vos jeux, comment on peut les vendre. Il y a toutes ces espèces de trucs hyper bizarres, elle est vendue 500€.
T'ajoutes à ça, ouais, parce que quand je vous disais tout à l'heure, ouais, les hardcore gamers ils veulent pas du Kinect. Et quand on dit à ces mêmes mecs en mode, ouais, si tu achètes une Xbox, il y aura forcément le Kinect dedans.
Forcément Kinect, t'es obligé de l'avoir.
Et du coup, faut que tu payes le Kinect 100 balles avec, en fait. Et du coup, ça te fait un total de 500€.
Waouh! Et la PS4 vient en face en disant « Eh, la console, elle coûte 400 balles. Si vous voulez prêter un jeu, la vidéo qui est très connue, vous pouvez le trouver. »
Avec Shuhei Yoshida qui donne un disque à son pote et tout, en mode « Voilà comment prêter. » Et je suis en mode... C'est, en termes de com, Sony a été... Ils ont juste dunké, en fait. Genre, c'est vraiment le mème de Venom qui dunk sur Spider-Man. Genre, ils ont juste... Tu sais, ils ont vu le foutoir que c'était là-bas. Ils se sont dit « Eh les gars, on se régale, on va juste dunker. On vend une console qui est 100€ moins chère. » Et qui est techniquement meilleur en plus.
Ouais, aussi en plus.
Et du coup, bah, en plus, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété sur RNG, mais à ce moment-là, c'est un shift tellement. Je veux dire, même encore aujourd'hui, on voit encore à quel point l'image d'Xbox est tout.
Genre, ah ouais, on souffre.
Ça va faire 10 ans.
Bah, en fait, c'est ça, si on fait un fast forward, en fait, la Xbox One, du coup, elle sort, c'est pas un four dès le début, elle se vend bien sur les premières semaines, même moi, genre, les gens étaient en mode assez satisfaits quand même de la console, de l'expérience, mais au fur et à mesure, au fil des semaines et des mois, on est là en mode,
je crois que la stat, c'est genre, un peu après ou vraiment quand la génération commence, c'est en mode pour une Xbox One achetée, il y a 6 à 7
PS4.
Ouais, 6 à 7 ouais, ouais.
Et
PS4
en fait, ce qui va vite fait switcher, ça va nous amener un peu dans la deuxième partie, c'est donc il y a Phil Spencer qui débarque. Et je me rappelle, moi, vraiment, faut se dire que je suis quand même un gros joueur Xbox à la base. Hein. Genre, j'ai eu la première Xbox, la 360, la Xbox One, la One X, et ensuite la Series X que j'ai vendue. Mais du coup...
il l'a dit, oh, waouh.
Donc j'arrive sur le... Je vais arriver sur ce sujet-là, mais du coup... En fait, il faut se dire que du coup, Phil Spencer débarque et dit hey, « Kinect, ça dégage, c'est plus vendu obligatoirement, on baisse le prix de la console donc à 400€ pour s'aligner. » Et en même temps, le navire coule et en fait, on est sur une continuité. Je vais faire un gros bloc. On pourrait découper ça en vagues, mais il y a des studios comme Lionhead, qui sont ceux qu'on fait Fable, qu'on fermait parce que le prochain Fable n'a pas réussi à se faire. Il y avait une bêta à l'époque, je me rappelle, j'y ai joué. Le jeu n'a jamais existé, il n'y a pas eu de Fable depuis 10 ans. Le prochain, c'est un autre studio qui le développe.
Mm-hmm.
Et un jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Scalebound.
Ouais.
Jeu de dragon, là, truc avec un mec qui a un casque audio. Ça n'est jamais sorti non plus. Plein d'exclus. C'était pas Platinum Games. Plein d'exclus qui se mettaient en marche sont jamais sortis. Xbox n'a pas réussi à diriger ses équipes. Phil Spencer et même Sarah Bond en parlaient en mode on a pris ça en compte. Et donc la One X, ça c'est à côté. Donc le software, c'est la merde. Halo, ça sort, c'est pas bien, c'est Halo plus 5, un événement. Ouais. Halo 5, Guardian sort, c'est un très bon multijoueur, je trouve, mais c'est pas un événement. La campagne, elle est pas ouf. Halo Infinite qui vient sur Series X après, pareil. Et en fait, du coup, donc on a la Xbox One en 2013. 2017, la Xbox One X. Qui vient remettre Xbox.
Très bonne console.
On a la meilleure console, elle est plus rapide, c'est une sorte d'upgrade dans la même gêne.
4K ready.
Très bonne console.
En ça vrai, lit n'importe quel jeu Xbox.
Et le Game Pass arrive à ce moment-là. Et donc, pendant 3 ans, le Game Pass est là, la One X. Il remonte en popularité, mm-hmm. en vrai, genre fin de la génération.
Bah, le Game Pass, c'était une excellente alternative au début.
PS4 Pro, One
même
X.
Même la One S. C'était c'est pas une... cher, ça coûtait 300 balles.
C'est une gêne où les ventes reviennent pas trop mal. Mm. Genre en vrai, Xbox est encore dans la course, on parle encore d'eux, on a hâte de voir leur jeu. 2020-21. Là, Series X sort et la PS5. Et tout le monde est assez excité au début de la gêne. Et en vrai, les deux consoles sont sell-out. Genre la Series X et la PS5. Vraiment, la Xbox moins galère à choper. Mais quand même, tu vois, c'est une console qui a du succès. Xbox a réussi quand même à se relever de l'échec Xbox One. Et pour autant, là, en 2025, tout le monde est un peu en mode hey, Xbox, est-ce que c'est encore vraiment pertinent d'acheter une console Xbox ou de jouer sur Xbox? Et ça, c'est un peu le débat qu'on va avoir là. C'est qu'est-ce que Xbox aujourd'hui? Et ma première take pour lancer un peu le débat avec Swill, c'est que pour moi, ouais, Xbox s'est jamais relevé de la Xbox One.
En termes d'image, non. Ils ont eu... pour moi, il y a eu une fulgurance, comme tu l'as dit, en 2020, où vraiment, il y avait ce côté... moi, j'aime beaucoup la proposition One S, One X, avoir une console
professionnelle. Tu veux dire Series S, Series X?
Non, vraiment, One S, One X, un peu avant. Genre oui. Vraiment, là, vraiment, genre 2019, vraiment, on est un avant la dernière gêne. La fulgurance pour moi elle vient là où vraiment t'as la One S et la One X qui sont établies avec une alternative cheap, une alternative un peu premium, mais des consoles qui fonctionnent, des bons lecteurs Blu-ray, genre vraiment ça avec un Game Pass à ce moment là c'était parfait en fait, franchement. Ouais. Et derrière, le Game Pass était pas aussi cher qu'aujourd'hui. On voit l'avènement des Xbox Game Studios, ça c'était quelque chose, je me souviens, parce que ils voulaient s'aligner un peu, parce qu'on n'a pas arrêté de le dire pendant la décennie 2010, c'était en mode les jeux. On sait que Sony, ils font leur succès sur les expériences first party, mais Microsoft, on leur disait à chaque fois, il vous faut des systèmes sellers, il vous faut un catalogue suffisamment riche pour alimenter une génération de consoles, en fait, comme l'a fait Sony avec la PS4. Donc, ils mettent en place les Xbox Game Studios, ils vont acheter tu te souviens, le studio de Shinji Mikami?
Les mecs qui ont fait Hi-Fi Rush.
Qui ont fait Hi-Fi Rush. Tango Game Works.
Ouais,
Tango Game Works. Ils achètent ça, ils achètent... Il y a eu le rachat record de Bethesda à l'époque,
ouais.
Avant le rachat d'Activision, tu vois, genre il faut
achat
que le record
de 75 milliards.
Activision.
Ouais. Activision Blizzard. Ouais, mais c'est ouais. Activision et Blizzard, ouais.
Donc c'est... Il y a que Microsoft qui peut faire ça, donc on se dit, ok, c'est bon, ils commencent à cocher les cases, en fait, qu'on leur demandait, c'est-à-dire, il vous faut alimenter un catalogue, proposer une alternative pas chère à vos joueurs avec une One S, mais aussi une alternative console premium avec une One X. On s'est dit, nouvelle génération de series, une Series S, une alternative pas chère qui fonctionne. Avec un Game Pass, ça fait totalement le café. La One S, dans l'idée, c'est pas la One S, la Series S, ça devait être la console du peuple, en fait, la console ouais. où vraiment tu te dis, ça, avec un Game Pass, c'est bon, ça fonctionne. Et malgré ça, en termes d'image, il y a encore des contradictions, en fait. C'est-à-dire, même en cochant les cases, comme j'ai envie de dire, ils continuent derrière à augmenter le prix de l'offre Game Pass. Récemment, c'était il y a quelques mois, quand ils ont monté le Game Pass Ultimate à 30 balles. Voilà. Le Game Pass Ultimate à 30€ par mois.
Ouais, c'est 26 ou 27 ouais. balles, en tout cas.
J'exagère.
Non, mais c'est quasiment 30 balles, hein. Je ne sais plus si c'est en dollars ou autre, mais ouais, non, c'est.
Et.
Ça a doublé.
T'ajoutes à ça avec des licenciements, c'est-à-dire, à FireRush, jeu, succès critique et tout, dispo day one sur le Game Pass et tout, et derrière, bah, les mecs, ils décident de fermer le studio, ils décident de licencier tout le monde. Rare, ça a été, à l'époque, au début des années 2000, quand ils ont acheté Rare, c'était un achat record pour des centaines de... plusieurs centaines de millions de dollars.
Okay.
On est passé de plusieurs centaines de millions de dollars à 73 milliards d'ailleurs. C'est pour vous montrer un peu l'inflation du JV, à quel point cette industrie est vouée à exploser. Rare, bah en fait, on va les laisser faire Sea of Thieves et... Ah ok, derrière, vous créez une nouvelle IP, un jeu d'action-aventure ? Ah, ça a l'air bien !
Everwild.
Everwild, ah, ça a l'air bien ! Allez-y, continuez, on vous laisse. Ouais, non.
Hop, hop, hop.
Ouais, non, retirez-moi de l'effectif et du coup, annulez le jeu, en fait, ça sert à rien. Vous voyez un peu dans la situation dans laquelle on est et à quel point en fait on est face à une... J'ai l'impression genre je suis dans un cartoon et qu'on m'a jeté une enclume sur le crâne.
Ouais, j'allais dire, je vais te poser une question seule parce que voilà, là ce qu'on vient de faire c'est un peu le constat de Xbox en 2025, c'est que beaucoup de mensonges, de contre-déclarations, de déclarations, d'achats, de ventes, mais c'est juste de licenciements en fait, de licenciements en veux-tu, en voilà, de studios qui ferment, des personnalités qui partent, et du coup... dans ce climat d'incertitude, genre faut se dire que voilà, on voit que les joueurs Xbox, dont je fais partie, j'ai vendu ma Series X en début d'année, enfin milieu d'année, je crois que c'était mars-avril, un truc comme ça. Mais donc faut se dire, moi qui étais un joueur Xbox depuis tout petit, je me suis dit, ça me sert plus à rien d'avoir une console Xbox, je vais garder un PC. Et donc la question que genre Swill voulait me poser, mais que je lui pose aussi, et j'aimerais bien qu'il réponde en premier, c'est que avec ce climat d'incertitude, c'est quoi l'avenir d'Xbox au sens de à quoi pourrait ressembler leur prochaine console?
Pour moi, il y a deux choses. Il y aura une alternative. Ils vont continuer sur un aspect series en termes d'hardware. Parce qu'on le sait, voilà, depuis l'arrivée du Game Pass, le but d'Xbox, c'est de vendre du service. Comme on sait que l'hardware est vendu à perte. Il y aura une alternative handheld. Je ne sais pas si ce sera de l'hybride ou full...
Après, la question, c'est est-ce que c'est pas déjà là l'alternative handheld avec la ROG Ally X, tu vois ? Même si ce n'est pas un produit... créé par
Xbox. Pour moi, il est trop premium.
Il est
trop cher.
Il est trop cher.
Pour moi, il est trop cher. Pour moi, ils vont, dans cette nouvelle génération, proposer un handheld Xbox. En fait. Je sais que ça peut paraître truc pour moi, genre, ce qu'ils ont fait avec Asus, c'est vraiment pour tester un peu le marché. Parce que je le trouve beaucoup trop cher pour vraiment...
Pour contextualiser, ouais, c'est 600€ le ROG Ally, ouais, voilà. 899€ le ROG Ally X.
Voilà, donc c'est quelque chose de très très premium. Surtout avec ce que vient de faire Valve, voilà, en termes d'actu, je ne sais pas si vous suivez quoi que ce soit, on a Valve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entreprise de Steam, tout simplement. Voilà, donc c'est
Half-Life,
ouais, voilà, Left 4 Dead, c'est vraiment un monstre, mais eux, ils sont indépendants, ils ne sont pas en bourse, c'est vraiment une entreprise qui reste totalement dans leur coin. Ils ont annoncé la Steam Machine. On ne sait pas encore le prix, mais ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment être une alternative, je pense, pour pas mal de joueurs, si ça... Le problème, c'est qu'on peut pas deviner. On sait pas quel prix ça coûte, quel
ouais,
truc.
Justement, mais on est là pour ça.
Ça peut, pour moi, je pense que ça va taper dans la fourmilière des consoles, surtout que on a Sony, Xbox qui, on le sait, genre ils tendent de plus en plus vers le PC en fait en termes d'hardware. Donc une nouvelle série, c'est-à-dire une nouvelle génération d'Xbox avec un handheld vendu. Le truc, c'est que c'est Microsoft, ils peuvent vraiment faire une alternative cheapos en fait, vraiment venir avec un prix ultra agressif, allez, 400€, 450€, 500€, c'est une dinguerie que je dise 500€ et que je dise que c'est une alternative cheapos d'ailleurs. Ouais. Mais
là, tu parles de la console portable.
Ouais, vraiment, ouais, ouais. Genre, vraiment un truc, mais premium, vraiment, avec du coup, build, vraiment un truc conçu par Xbox, tu ouais. vois, fini AMD,
Kali et tout,
fini AMD, genre vraiment un truc fait qui va tourner sous Windows, qui est pensé pour voilà, du Game Pass, le cloud, et à côté de ça, vraiment, une console de salon et un truc vraiment cher. Genre vraiment, je m'attends vraiment à un truc, allez, 750, une sorte de PS5 Pro en fait. Mais du coup, vraiment, pensez, voilà, PC,
ouais, la prochaine gen.
Vraiment un monstre de puissance. Pensez, voilà, pour la prochaine génération de jeux. Et ouais, voilà, mais vraiment une alternative premium, je les vois bien aller chercher quelque chose là-dedans. Le problème avec ça, moi, que j'ai, c'est que, bah, comme on l'a dit un peu pour la PS5 Pro, si les consoles commencent à avoisiner ces prix, on va les mettre dans le même panier que les PC. Et pourquoi j'irais vers une console qui coûte 800 balles et alors que si je rajoute les 300-400 € et je me fais une excellente config, surtout que voilà, on a Valve là qui arrive avec la Steam Machine, je sais vraiment pas comment va faire Xbox si on a une Steam Machine à 450-500 €.
Je pense que c'est genre, ouais, moi ma tech est rejoint là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense pas que, pour moi, Xbox va pas faire une console portable. C'est vraiment parce que je pense que c'est possible, je crois qu'il y a des leaks là-dessus, mais je me dis, ça serait un peu être en concurrence avec la ROG Ally X en disant ils ont déjà un produit à 600 balles, ils proposent une console portable à leur tour. Je suis en mode, ça pourrait, hein, vu que leur stratégie elle est vraiment dans tous les sens. Je sais pas si vous vous souvenez, Microsoft avait dit il y a, allez, on va dire que ça fait même pas un an, ils ont dit il y a que 4 jeux qui vont sortir sur PS5 et d'autres consoles. Genre, on a 4 exclus qu'on a envie de sortir sur, chez Sony.
C'est Phil Spencer qui a dit ça d'ailleurs.
Phil Spencer qui avait dit ça sur un podcast avec Sarah Bond, c'était sur un canapé, ils étaient tous confortables, ils disent on a 4 jeux. Il y a une meuf qui dit sur ces 4 jeux, est-ce qu'il y a Indiana Jones et Starfield? Il dit non, il n'y a pas Indiana Jones, il n'y a pas Starfield. Indiana Jones est sorti sur PS5. Et donc, on a dépassé les 4 jeux parce qu'on sait que le prochain Halo Remake, donc Halo Combat Evolved, le jeu qui a vendu par palette la première Xbox, sort sur PS5 l'année prochaine. On sait que Gears, on l'a vu là, est sorti sur PS5. Forza Horizon 5 est sorti sur PS5. Et donc, il y a plein de déclarations qui se sont contredites. Donc, pour moi, le vrai souci de la prochaine génération d'Xbox, si je devais aussi donner ma tech, c'est que console portable, je ne pense pas qu'ils en feraient une, ce serait pas pour moi intelligent de leur part, mais ils pourraient. Par contre, console de salon, je pense qu'en effet, la prochaine génération d'Xbox va être une console premium aussi. Elle va coûter hyper cher, pour moi, elle va coûter 800 balles. Et c'est une console qui va être à la pointe de la technologie. Je pense que ça va être un excellent PC, entre guillemets, vraiment une console avec un force brute et pas
sous
mal
Windows.
De choses. Mais sous Windows, et je pense que ça, c'est un des gros problèmes que va avoir Microsoft. C'est qu'en gros, vous vous rappelez quand on parlait de la première Xbox, quand j'en ai parlé dans la première partie, on était là en mode, la team Xbox, elle était en mode, hey, il faut pas qu'il y ait Microsoft, Windows, faut que ça dégage, il faut que vraiment Xbox soit un écosystème à part, il faut pas qu'on ait l'image de marque Microsoft. À partir du moment, pour moi, où Xbox a racheté Activision Blizzard à hauteur de 75 milliards de dollars, et bah, ouais, forcément, il y a genre John Microsoft qui vient toquer à la porte en mode hey, excuse-moi, tu joues un peu avec mon portefeuille là, genre moi j'ai besoin de...
Le retour sur investissement du coup.
Exactement. Donc on a eu ces 8000 à 9000 licenciements. Je pense que ça vient de là, ça vient que parce que d'un coup avec cet achat, ils veulent rentabiliser ça le plus rapidement possible. D'où l'IA aussi disent, faut qu'on investisse avec Copilot, etc. Et donc, Windows est mis en avant. Le problème, c'est que personne veut de Windows actuellement. Windows 11, tout le monde en a ras le cul. J'en suis le premier. Je peux pas expliquer à quel point... Ce qu'il me dit, genre calm down, mais... Je peux pas expliquer à quel point Windows me pète le cul. Et je vraiment, vous n'imaginez pas les soucis techniques qu'on a pu avoir avec mon PC, qui est une config qui coûte 2500 balles. Parce qu'il y a Windows. C'est que, au-delà de l'hardware, c'est le vrai problème que j'ai. Ma vie est vraiment, genre... gâché par ce putain de système d'exploitation. Et le vrai pari que doit réussir Xbox sur la prochaine génération, c'est que leur matériel fonctionne. Si la GameCube, la console de Steam, elle sort avec SteamOS qui est sous Linux,
open source,
qui est open source, et si tout fonctionne bien, pourquoi vous allez vous faire chier avec une Xbox qui n'a plus d'exclusivité ou d'exclus vraiment temporaire, vu que tout sort maintenant en même temps sur PC et Xbox? À part le côté genre vraiment très niche de joueurs qui veulent quand même pas passer sur PC, qui veulent pas s'alourdir de Windows, mais Windows a l'air de venir chercher ces joueurs-là quand même, parce que bah ils veulent essayer d'homogénéiser un peu la plateforme. Pour vraiment finir en gros, moi, faire ma conclusion, c'est juste que une console haut de gamme avec un hardware à la pointe, certes, le xCloud, pourquoi pas? Apparemment, il y a des gens qui jouent comme ça, au cas s'il n'y a pas de latence et tout. L'idée de rendre Xbox accessible à tous avec plein de portes d'entrée, ok. Et d'avoir le Game Pass au centre, je comprends. Le problème, c'est que pour moi, ça se casse la gueule. La seule proposition que je vois viable, et je me suis noté ça sur mon pari, ça serait que le Game Pass devient entre guillemets obligatoire avec la nouvelle console, comme un abonnement téléphonique. C'est vous vendez la console pas cher, alors que c'est du hardware de ouf, mais vous obligez en mode, hey, pour qu'elle fonctionne, il faut un abonnement. Comme si t'avais une carte SIM, tu vois ce que je veux dire un peu. C'est bête et méchant, hein, mais en fait, t'as ta console j'ai en mode, avec un abonnement.
J'ai l'impression que c'est qu'on. Des offres télé, en fait, on achète un câble, un décodeur et on.
Ouais, voilà. Canal, pour moi, c'est ce qui pourrait. Tu sais, genre, on parle de TV, du divertissement, c'est ce que. Tu sais, on avait un peu fait le constat hors antenne où, à la base, Xbox, c'est des jeux vidéo. Et maintenant, vu que Microsoft a le dos par-dessus et qu'ils sont en train de vraiment être un colosse de l'industrie, ils sont en mode, hey, on doit checker ça et on a besoin que Xbox soit plus que ce domaine, que ça soit un truc genre en quatre dimensions qui englobe toute forme d'entertainment en fait. Donc je sais pas, pour moi, la Xbox, ce qu'elle devrait être, l'esprit de la Xbox qui devait revenir, c'est de la Steam Machine en fait.
Bah oui.
C'est homogénéiser jeu, interface et avoir un côté plug and play, c'est ce que veut faire la Steam Machine.
Parce que vas-y, je te mets sur le projecteur. Réponds à ça. Demain, on a une Steam Machine qui coûte allez, 499€.
Mm-hmm.
Paye pas le online. T'as accès à l'un des catalogues les plus denses et bah, le catalogue le plus dense du monde.
Ouais, en fait, sur PC, sur bien Steam. Sûr.
Tu peux modder tes jeux. Tu peux émuler. Vas-y.
Pourquoi acheter une console?
Je me pose la question comme ça, mais je me dis, si j'ai une console, pourquoi j'irais sur la Steam Machine aussi d'une manière... Moi, personnellement, j'ai une PlayStation 5 et je me dis, j'ai déjà ma bibliothèque de jeux, pourquoi j'irais vers un autre écosystème? Même si au long terme, il sera moins cher. Il y a un côté de... C'est toujours plus simple de rester à la maison. Tu vois, il y a un côté... C'est compliqué de séduire. En fait, c'est ça le truc avec Valve et Steam. On change un peu de truc, mais ça va être compliqué d'aller chercher des joueurs
des nouveaux
chez
joueurs.
PlayStation et trucs. Je pense que la Steam Machine, pour qu'elle arrive à faire ça, il faudrait un prix qui soit très agressif.
Je pense que la Steam Machine peut séduire des joueurs PC qui déjà veulent un peu un confort de jeu en se disant « Eh, ça coûte beaucoup moins cher que ma config si je veux la brancher dans mon salon. » Plutôt qu'avoir une console, ça permet d'être une extension de ça. Comme l'est le Steam Deck, c'est juste une prolongation. Genre la plupart des gens qui ont un Steam Deck ont un PC. Ça leur permet de continuer à jouer quand ils sont en voyage ou autre. Là, c'est genre passer d'une pièce à l'autre. Parce que c'est aussi ces gens-là, hein, faut savoir, qu'ont une PS5 et qu'ont acheté un PS Portal. Hein. C'est des gens qui ont une PS5.
Ouais.
Qui disent, hey, je veux jouer sur mes chiottes. Genre, globalement, c'est ça. Hein. C'est à la base. Et du coup, pour moi, il y a ce truc-là où la Steam Machine n'est pas avoir un public. Par contre, comme tu dis, la Xbox, à part aller vers le segment premium, en fait, pour moi, la Steam Machine, c'est un cheval de Troie. Il fallait conclure un peu, c'est que Sony sort maintenant ses jeux sur PC. Parce qu'on s'est dit, le PC, c'est un marché qui n'est pas attiré par les consoles. Les joueurs consoles ne sont pas attirés pour mettre 1000 balles ou plus dans un PC. Donc c'est hermétique. Autant aller racler les revenus. Xbox a fait pareil en se disant, hey, mais on est sur Windows, c'est nous Windows, donc on met les jeux. Même si parfois, il faut passer par Steam, il y a le Game Pass. On racle aussi un peu de thunes. Xbox, là, on les critique beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de questions. Il y a énormément d'incompréhension et des joueurs qui sont inquiets et même déçus. Moi, je sais que globalement, je suis très triste de ce qu'est devenu Xbox. Mais ils cartonnent. On va pas leur dire que ce qu'ils font, c'est mauvais, alors qu'ils font 26 milliards de bénéfices sur le dernier trimestre. C'est même pour ça qu'ils licencient des gens, parce qu'ils font trop d'argent, n'est-ce pas? Et donc, ils sortent leurs jeux sur PC, Sony pareil, à part Nintendo qui est dans son coin. Et là, t'as Valve qui dit, hey, mais nous, on sort une console. Donc en fait, le catalogue de ces deux consoles-là peut être dans votre salon, sur notre console. Et il y a un peu ce truc où je suis en mode, ok, c'est un peu un bail qui court-circuite les deux constructeurs. Sony est quand même assez en place avec son image de marque. Il y a un truc où ils l'ont pas assez écorché pour que je pense à les menaces vraiment. Mais Xbox, ils l'ont tellement abîmé que c'est une vraie menace. Il y a un peu ce truc où c'est pour ça qu'on a le débat, c'est que ça les menace directement.
Ça peut être le coup d'épée qui achève un peu Xbox en termes d'image. Microsoft va jamais mourir. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, si t'es manipulé par l'entreprise la plus puissante du monde, c'est par Evil Corp, pour ceux qui regardaient Mr. Robot. Ah ouais, genre, c'est compliqué.
C'est un combat un peu perdu d'avance.
Ouais.
Ouais.
C'était RNG, 93.9 FM Radio Campus Paris. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On est habitué maintenant, ça va être le bilan 2025.
Avec le fameux KL qui sera forcément là pour le dernier épisode.
De fou, on va le ramener de force.
Ce qui sera genre qu'on s'entend, mais ok.
Oui, ok, bon, ouais. Shout out à Jules. Je vous fais des gros bisous. C'était voilà RNG
Ulysse, à la prochaine.
Ouais, à la prochaine, salut Squid.
Ciao.